Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Jean-Christophe n'aime pas son prénom. Il hait la rivière et il n'ira jamais à l'usine car il préfère être fermier. Il va vivre dans son territoire, isolé dans l'enfermement, exclu, étanche à tout. Longtemps, il ne sera pas capable de déceler le moindre signe qui pourrait le sortir de son enclave et élargir les bornes grises de son quotidien. Il comprendra très tard le sens de ce message inquiétant et sibyllin « Sauve ta peau » que ne cesse de lui envoyer son oncle. Il finira par se créer un lieu qu'il a porté secrètement depuis son enfance, puis deviendra libre sur les ailes des voix que lui offrent deux femmes. Il sera un homme debout, il aura osé se défaire des conséquences de la faute de sa mère pour enfin pouvoir dire merci à la vie. C'est ce parcours que nous propose Marie-Hélène Nunez dans son dernier roman « Territoire étanche » paru en 2024 chez Hasard Atelier Éditions. Bonjour Marie-Hélène Nunez.
Bonjour. Bonjour merci, à tous.
Merci d'être des nôtres et d'avoir accepté l'invitation de Parole d'auteur. Je salue à nouveau nos fidèles auditeurs. Marie-Hélène Nunez, une première question. Pourriez-vous me dire s'il y a des prénoms difficiles à porter ?
Oui, oui. Effectivement, c'est une grande question à chaque roman, le choix du prénom pour mes personnages. Et celui-ci m'est venu parce que je trouve que pour un être qui est un être chétif, surtout enfant, c'est un prénom très long, très lourd. Jean, le tiré, Christophe plus loin. D'ailleurs, l'orthographe de Christophe est un vrai souci lorsqu'il apprendra à écrire à l'école. C'est un mot compliqué, c'est un mot lourd. Et en l'écrivant, j'ai eu la sensation, et d'où ma première page, que c'était un véritable attelage de deux mots. Alors, un petit devant, Jean, et qui tire tout un attelage très lourd. Et donc, j'ai commencé mon livre sur ce prénom, effectivement.
Voilà. Donc, prénom dont il souffre, et on y reviendra sans doute, qui sera pour lui pendant très longtemps un fardeau. Alors, Marie-Hélène Nunez, je voudrais redonner à nos auditeurs quelques éléments de biographie. Vous êtes donc d'origine albigeoise, vous avez fait des études au lycée d'Albi, puis à Toulouse à la faculté des lettres. Vous avez fait professeur de lettres classiques pendant une vingtaine d'années, si je ne me trompe pas.
Beaucoup plus.
Beaucoup plus, même. Alors oui, je crois que vous l'avez fait dans la région pendant une vingtaine d'années, c'est ça, d'accord. Et maintenant, vous êtes donc à la retraite et vous vous adonnez à l'écriture, sachant que la littérature a été votre compagne de toujours, on peut dire. Vous dites que, jusqu'à présent, vous avez publié 4 romans, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a un trait commun, une cohérence dans tous ces écrits que vous avez publiés ?
Alors, effectivement, ce sont les retours de mes lecteurs qui m'ont fait prendre conscience qu'il y avait des thèmes récurrents, alors que a priori, lorsque j'annonce la substantifique moelle de chaque livre, ça n'a rien de commun. Et puis, le retour de mes lecteurs m'ont fait prendre conscience qu'il y avait toujours une problématique de la mère de famille, hein, la maman, voilà, que l'on retrouve avec des mamans très différentes dans chaque livre. Et par voie de conséquence, la question du père qui se pose, en particulier dans La Petite, le précédent, et dans celui-ci aussi, la mère et le père, donc. Et aussi, je me rends compte que, les trois derniers livres ont en commun la construction de l'identité, avec des situations extrêmement différentes. Dans leur chemin, c'est l'exil espagnol, la retirada, et comment on se construit quand on est d'ailleurs et d'ici et en exil par les parents, et comment on se construit étranger sur un sol. Et ensuite, la deuxième, la petite, c'est vraiment tout autour de l'identité d'une petite fille jusqu'à l'âge de 20 ans, dans une situation intime très particulière. Et ici, comme on le verra, la construction de Jean-Christophe. Donc il y a effectivement une quête de l'identité qui est un point commun, mais dont je n'avais absolument pas conscience. C'est simplement cette question redondante, mais est-ce qu'il y a un rapport entre vos livres et plutôt la réaction des lecteurs en me disant « Ah oui, vous parlez toujours de la mère. » Voilà. Et j'ai mis tout ça bout à bout. Et effectivement, il y a des thématiques récurrentes.
Et c'est un constat général que vous n'avez fait qu'a posteriori, finalement.
A posteriori. Oui. Voilà.
Bien. Alors, revenons à ce roman qui s'appelle « Territoires étanches ». La première question, effectivement, tourne autour du titre lui-même. Quel territoire et pourquoi étanche ?
Alors, le territoire, là, dans ce livre, c'est le territoire essentiellement de l'usine de Mazamé. Donc, déjà dans un lieu précis géographiquement de la région, pas très loin d'ici. Et dans ce lieu qui est enfermé, cerné de montagnes, qui est une cuvette, et il y a d'autres lieux dans lesquels on entre que si on est initié, c'est-à-dire le monde des usines dans lequel Mazamé a trempé pendant le 19e siècle, le 20e siècle et son déclin à partir de 1980. Donc, ce sont des territoires vraiment à part, seuls, enfermés, avec des échappées que nous verrons. Mais on y est introduit généralement par le biais de la famille, on prend le relais du père qui part à la retraite, enfin, ce sont des familles entières qui travaillent là. Donc, voilà les territoires obscurs, les territoires étanches. Pourquoi étanches ? Parce que à l'intérieur de ce lieu, qui est lui-même fermé au reste de la région au sens large ou même de la France, il y a à l'intérieur des petits territoires, des territoires sociologiques, religieux, économiques, et à l'intérieur de la famille, là aussi des territoires, et particulièrement, je pense, il y a un territoire qui est étanche, que j'aborde un peu, c'est celui des hommes et des femmes.
Alors, vous avez abordé la notion de territoire sociologique. En lisant ce livre, donc, je le rappelle, qui se passe dans la région de Mazamé, dans une région qui a vécu pendant très longtemps autour d'une mono-industrie très spécifique. Il y a la peinture de plusieurs catégories de population et en particulier la peinture des ouvriers, des contremaîtres qui travaillent dans cette industrie. Et on ne peut s'empêcher de faire le rapprochement, enfin c'est celui que j'ai fait, avec l'ouvrage de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, qui fut d'ailleurs pris Goncourt en 2018. Ce rapprochement, j'avoue que je l'ai fait à la lecture de l'exergue de Pierre Michon, que vous avez introduit dans votre livre et que je lis ici. Il allait falloir écrire et je ne pourrais pas. Je m'étais mise au pied du mur et je n'étais pas maçon. Tiré donc des vies minuscules. Alors, vous aviez ce souci de décrire cette catégorie de population de porter le projecteur vers ces vies minuscules.
Oui, alors effectivement, parce que si l'on regarde, et ce n'est pas très vieux dans le temps, tout le basculement qu'il y a eu dans le monde du travail, des métiers entiers qui ont disparu, donc des ouvriers qui sont passés dans l'oubli, complètement, parce que ça n'existe plus, particulièrement donc dans ce cas-là, le délainage à Mazamé, suivi de la mégisserie, suivi ensuite du travail de la peau. Et tous ces métiers, d'ailleurs, il y a même un vocabulaire spécifique, je mets des petites notes en bas de page, parce que ce vocabulaire, personne ne le connaît, il a disparu, on ne s'en servira plus jamais. Et donc, toutes ces disparitions d'inconnus qui ont été des rouages de l'économie importante de l'économie française, Mazamé étant le premier centre mondial du délainage mondial. Et il y a même la Banque de France qui était installée dans la ville. Et là, il n'y a plus rien. Non seulement les hommes disparaissent, les métiers disparaissent, mais vraiment pour moi, c'est quelque chose de problématique parce qu'on le voit que ça continue, ce déclin d'une quantité de régions. Alors effectivement, vous l'avez cité, ça c'est dans le livre de Mathieu, c'est dans l'est de la France. Mais bon, ici dans la région, on a vu les mines de Carmaux, voilà, tous ces métiers-là qui ont disparu. Et avec eux... Et je le montre dans mon livre, il y a tout un tas, alors, de valeurs, entre guillemets, parce qu'on peut en discuter, mais enfin, de socles, disons, qui disparaissent. C'est-à-dire, le travail comme une vertu, le goût de l'effort, la croyance que le mérite paie, et on peut monter les échelons, toutes ces valeurs disparaissent en même temps que les métiers. Et alors, moi, vraiment, c'est quelque chose qui m'interroge. Qu'est-ce qui se met en place? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Quelle société? Quel monde du travail? Quel rapport entre les humains? Là, je parle aussi des rapports ouvriers-patrons, où on n'avait même pas besoin de contrat. On se regardait dans les yeux, on se serrait la main. Alors, on peut critiquer tout ça, hein, c'est pas mon propos, mais je me demande ce qu'on met à la place et vers quel monde on va lorsque toutes ces socles disparaissent.
Et c'est donc une analyse qui vous conduit à constater qu'effectivement, il y a perte des valeurs, perte des repères. Alors, dans ce livre, on voit le cheminement du héros principal qui s'appelle Jean-Christophe, et en même temps, on voit que se croise dans son cheminement l'évolution de cette industrie. Et à ce titre-là, vous avez fait un livre qui est construit un peu comme un enchevêtrement.
Oui, lorsque la phrase de Michon, « et je n'étais pas maçon », est une phrase qui m'a accompagnée parce que j'ai eu l'impression de faire un métier dur à ce moment-là, comme physiquement dur presque, parce que j'avais le souci d'entremêler l'intime, le familier, où il y a des valeurs aussi qui sont transmises, et tout cela de bien montrer que ça participait à un grand mouvement régional, économique. Je ne voulais pas couper l'un de l'autre parce que lorsqu'il faut apporter une précision technique sur le métier, par exemple, la visite des usines, comment ça fonctionne, les postes des ouvriers, etc., je ne voulais pas que ça casse le reste, c'est-à-dire les problèmes psychologiques, les relations compliquées, par exemple, entre la mère et le fils. Donc, c'est pour cela que j'ai eu un travail vraiment quasiment, sinon physique, mais du moins un gros travail d'écriture pour entremêler des événements qui sont mêlés. L'un entraîne l'autre, l'un est la conséquence de l'autre, etc. Voilà.
Alors, pour que nos auditeurs puissent avoir une idée un petit peu plus précise, est-ce que vous pourriez très brièvement nous expliquer en une ou deux phrases le sujet du roman, surtout le fait qu'il tourne autour du héros principal qui s'appelle Jean-Christophe?
Oui, donc j'ai créé le sujet, j'ai créé autour d'une famille où il y a Jean-Christophe qui est l'enfant, et puis qui va grandir, que je mène jusqu'à plus de 50 ans. Et ensuite, le père, la mère, ils sont eux-mêmes issus du milieu ouvrier. Ils ont travaillé, le père et la mère, dans les usines de délainage. La mère s'est arrêtée à la naissance de Jean-Christophe. Et ensuite, le fils reprendra le flambeau. L'oncle, qui va passer un moment dans la famille, va aussi travailler dans les usines un moment. Donc, autour de cette famille, les tentacules, à partir de leur vie familiale, nous mènent. M'ont mené dans une recherche documentée du travail au niveau technique, au niveau sociologique. J'ai donc rencontré aussi une autre catégorie pour le créer, ce livre social, ce sont les patrons. Et ce sont surtout les anciens patrons de Mazamet qui m'ont accueilli vraiment très chaleureusement pour me faire part d'un autre point de vue qui m'a été utile, évidemment, pour créer mon histoire. Donc, mon histoire, c'est comment quelque chose qui tient une région, une ville, et tout d'un coup décline. Et on peut dire qu'autour de 1980, voilà, on voit petit à petit les usines se fermer. Et ce qui est intéressant, c'est l'enchevêtrement, les usines se ferment. Que font les gens? Que deviennent les familles? Comment les gens réagissent?
Nous allons y revenir en détail. Et globalement, on peut dire que ce roman, c'est à la fois un livre sur l'enfance, sur le destin, sur la transmission entre un père et son fils, sur le déterminisme social, sur la libération, la délivrance et la réconciliation avec soi-même. Et c'est un livre sur la vie et sur la mort, mais nous allons en rediscuter plus tard. Nous accueillons votre premier invité qui s'appelle Monsieur Chopin.
D'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes en compagnie de Marie-Hélène Nunez qui vient nous présenter son livre Territoire étanche, paru chez Hasard Atelier Édition. Vous avez convié Chopin, c'est un invité qui s'imposait.
C'est la mélancolie de ce morceau qui m'a parlé, parce que quand on évoque quelque chose de cher, où on est à la fois heureux et à la fois triste parce que ce n'est plus. Et donc je trouvais que ça convenait bien avec l'histoire de ces gens et de la région. Tous les gens qui m'ont parlé de Mazamet, pendant mon enquête, ma préparation, ma recherche de documents, avait une grande joie de me raconter ça. Vraiment un bonheur, mais un bonheur qui est parti, qui n'est plus. Et je trouvais que ça engendrait de la mélancolie. Voilà pourquoi ce morceau.
Merci. Alors, les personnages. Donc, il y a plusieurs personnages. Le personnage principal, nous l'avons compris, c'est Jean-Christophe. Est-ce qu'on peut dire que c'est un anti-héros?
Oui, tout à fait. Ah oui. C'est un anti-héros. Et là, je trouve ça, au niveau de l'écriture, absolument passionnant d'écrire sur des anti-héros, des gens dont bon, qui passent comme des ombres. Leur vie ne laisse pas de traces, très peu. Lui, il ne laissera personne derrière lui, il n'aura pas d'enfant, il n'a pas d'œuvre à laisser. C'est un homme dont on pourrait dire, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Voilà.
Et vous donnez même des précisions dans la description du garçonnet, puisque vous écrivez « Le garçonnet grandit comme une branche déjà desséchée ». C'est-à-dire que très vite, on comprend que les perspectives ne sont pas réjouissantes pour lui.
Oui, il n'a pas de chance avec son physique. Il n'a pas de chance à l'école avec, disons, le côté apprenant. Voilà, il a beaucoup d'obstacles dans sa petite vie d'enfant. Il a quelques espoirs, comme par exemple, il dit non à son père tout petit. Non, je ne travaillerai pas à l'usine comme toi, parce que son père tout petit lui montre les vertus de l'eau, des rivières qui coulent à Mazamé, qui sont censées être bonnes et presque magiques pour des l'aînés. Et il lui montre son travail, il est très fier de lui faire visiter l'usine. Et l'enfant résiste et dit « Non, moi, je conduirai des moutons dans les prés, je serai fermier. »
Et ça, il se détermine par rapport à cette ligne d'horizon assez rapidement et il n'en démordra pas finalement.
Oui, il n'en démordra pas, bien qu'il ne réalise pas son rêve, ou un peu, il essaie, mais il sera quand même maragosse. Maragosse, c'est le terme employé dans les usines pour dire le manœuvre de bas étage.
C'est-à-dire qu'il fera néanmoins des tours par l'usine, c'est-à-dire que néanmoins, il poursuivra la trajectoire familiale, au moins pour un temps, c'est ça. Alors, on peut même se poser la question, c'est ce personnage principal, s'il existe, s'il est vivant finalement, c'est puisque il est en permanence en retrait et on a l'impression que la vie ne lui apporte aucune satisfaction.
Il a des satisfactions par procuration, c'est-à-dire il n'est pas malheureux finalement dans son milieu parce que ça le protège. Il se situe comme un être fragile et ses carcans qui pourraient être prison, il le dit parfois, sont aussi son cocon qui le rassure un peu devant la vie. Et puis, il fera quelques rencontres. Tout n'est pas échec. Mais il a effectivement tout un tas de difficultés au fil de son chemin. Et je pense que il a quand même des volontés. Donc là, être fermier, et ça sous-tend un peu ces démarches. Même si ça échoue, il a cet espoir. Voilà. Mais il n'est pas seul. Il ne peut pas lutter tout seul, mais il a des obstacles énormes. Et je dois le dire, je ne sais pas, on va y revenir sans doute. Mais le premier, c'est sa mère.
Alors parlons-en. Marthe, c'est sa mère. Quel est son caractère, cette dame?
Ah, c'est très compliqué. Parce que c'est quand même le pilier de la famille, des trois, du trio, mari, fils, elle, mais aussi de la famille élargie lorsqu'ils se réunissent en famille. Elle a un caractère trempé, en apparence. Elle aime les enfants, en apparence. Elle préférerait quand même les filles, mais hélas, elle a un garçon. On ne sait pas quoi, où on le devine, mais il y a quelque chose, un mystère qu'elle porte en elle et qui fait que malgré les apparences conviviales, joviales, elle danse, elle chante, elle a un lourd passé, mais on ne sait pas lequel jusqu'à la fin du livre. On peut deviner, il y a des indices qui fait que ça lui donne toujours l'impression de claudiquer, par exemple, physiquement, mais surtout de porter un poids moral et une faute, d'avoir commis une faute.
Voilà, on sent qu'elle porte une faute, on sent qu'elle porte un secret, qui rentre dans la catégorie des secrets de famille, donc, et qui contribue à alourdir l'ambiance familiale. Alors, au-delà de la mère, naturellement, il y a le père qui s'appelle Paul. Alors Paul, lui, c'est quelqu'un qui a fait carrière dans la même usine, et c'est quelqu'un qui a toujours été très engagé, très dévoué à son entreprise. Alors vous pourriez nous expliquer dans quel contexte justement ce personnage a consacré sa vie à son entreprise ?
Oui, parce qu'il est arrivé tout jeune apprenti, à l'âge de 13 ans. Il devait faire subvenir à sa propre famille. Bon, parce qu'il était l'aîné de plusieurs enfants. Et donc, il s'engage, il est maragosse, comme son fils le sera. Il part vraiment au bas de l'échelle. Et petit à petit, par son travail, par son dévouement au patron... Et il y a un attachement qui se fait avec ce patron qui prend de l'âge au cours du livre et qui le considère un peu comme son fils parce qu'il reconnaît sa valeur professionnelle et morale. Donc j'ai parlé tout à l'heure, pas de contrat, etc. La confiance établie. Et lorsque le patron lui confie de faire quelque chose... que surtout les courtiers faisaient, ou les fils de patrons, c'est-à-dire partir à l'étranger chercher des pots, faire de grands voyages, lui, il ne peut pas ne pas accepter. Parce que ça, ce serait une trahison. Parce que, évidemment, sa femme, Marthe, va protester parce qu'il va partir, il va prendre l'avion, elle a peur de tout, il va sortir de l'enclave, il va aller dans des pays inconnus, avec des mœurs inconnues, des climats inconnus. Et le patron lui confie ça. Et il va monter donc, et ainsi dans les échelons. Et cette ouverture au monde à travers ses voyages est essentielle pour lui, parce que lui aussi a un degré moindre, puisqu'il est amoureux de sa femme, on le voit, mais il est quand même enfermé par elle.
Et il ne va d'ailleurs pas hésiter très longtemps à accepter ce nouveau job, finalement. Ses réticences vont être très très moindres, et au contraire il va le vivre comme une reconnaissance très profonde, très forte.
Oui, tout à fait, il est vraiment heureux, et il ne fait pas de clivage en plus, parce que il est heureux de ces deux vies, de ces deux lieux où il va. Alors il va aller en Jordanie, il va aller dans les pays du Moyen-Orient chercher les bêtes sur pied, puis qui se font traiter là-bas avant qu'on prenne leur peau. Et c'est un spectacle absolument fascinant. Il le raconte. Il raconte le désert. Il raconte à son fils, à sa femme, les expéditions à dos de chameau. Et en même temps, il est heureux de revenir à Mazamé, de revenir dans la fraîcheur des lieux, dans la pêche à la truite qu'il aime, etc. Donc, il se constitue une identité avec ces deux hommes qu'il est à la fois.
Alors, cela vous donne l'occasion de décrire un petit peu non seulement les usines, les types de métiers, mais vous expliquez aussi que la relation patron-ouvrier était très, très spécifique et caractérisée en particulier par cette notion de solidarité patron-ouvrier et par cette notion de confiance, avec souvent un lien entre le patron et l'ouvrier qui se déroulait sans contrat de travail.
Voilà, c'est ce que je dis. Il n'y a pas de contrat de travail, oui. Du moins, à une époque, après, ça a dû changer, évidemment. Et ce qui est intéressant, quand vous avez parlé solidarité, dit le mot solidarité, c'est de voir qu'au moment de la fermeture des usines, l'une après l'autre, comme ça, ils ont la même souffrance, c'est-à-dire que le patron, il est là. C'est la même douleur, c'est-à-dire que tout le monde va être privé de ce qui faisait vivre une société entière, une région. Et on voit le patron qui va raccompagner jusqu'au portail de fer les derniers ouvriers qui partent avec leur musette contre eux, la musette du casse-croûte du matin. Toute cette vie qui était une vie familiale. Voilà, dans le quotidien, on fait la pause matinale, on se lève à 5 heures du matin, on commence à 5 heures du matin, tout le monde. Et finalement, le déclin de l'industrie va être douloureux pour tout le monde.
Et il va être particulièrement douloureux pour Paul, qui aura beaucoup donc, de difficultés à l'accepter. Mais ça, nous laisserons aux auditeurs le plaisir d'assister à cette histoire, à ce sentiment presque d'abandon après une vie professionnelle entièrement vécue dans la confiance. Et vous profitez à cette occasion vous en profitez pour décrire le nouveau management, les nouveaux patrons qui arrivent, qui ont des relations uniquement superficielles avec les ouvriers, qui parlent avec des éléments de langage et qui a pour résultat finalement de rompre cette confiance et de déstabiliser tout le monde finalement. Alors je voudrais qu'on parle rapidement maintenant de François, l'oncle. Mmh. Alors François, l'oncle, il joue un petit peu le rôle de l'initiateur bienveillant et viril, et c'est lui qui va tout au long du roman passer un petit message à Jean-Christophe qui est de l'ordre de dire sauve ta peau, pars, fais quelque chose. Message que Jean-Christophe ne va pas saisir de suite.
Oui, alors c'est le petit frère du père, de Paul donc, qui arrive dans ce foyer à la suite d'une blessure qu'il a eue pendant la guerre d'Algérie. Et donc là, c'est daté vraiment mon roman. Hein. On est dans ces années, 1962, un peu avant. Et il revient et ça donne une autre dynamique dans la famille parce qu'on s'occupe du blessé et surtout l'enfant a quelqu'un avec qui jouer, à qui parler, il a confiance en lui. Et puis il travaille un peu à l'usine, l'oncle donc, il faut bien quand il est guéri. Et ensuite, brusquement, il décide de partir, il s'engage dans la marine de commerce vers Djibouti sur un cargo. Le Sontai, et ensuite il va aller jusqu'en Indochine. Et de là, il y a une correspondance entre l'oncle et Jean-Christophe. Et effectivement, il lui dit les mots qu'il lui a glissés à l'oreille lorsqu'il lui a fait le bisou d'adieu le soir où il a quitté la maison. Sauve ta peau. Alors encore une histoire de peau de mouton, peau d'enfant. Parce que je le dis parce que il y a un passage où lorsqu'il travaille dans l'usine, Jean-Christophe pense qu'il est un mouton, c'est-à-dire qu'il est une victime et qu'on va lui le scalper, etc., qu'il va lui arriver des choses terribles avec en particulier un ouvrier qui l'impressionne, qui est comme un ogre. Alors tout cela pour dire que autour des mises en garde de l'oncle, sauve ta peau. On voit bien que indirectement, il y a la mère qui est visée dans les lettres. La mère, ça veut dire échappe à ta mère, libère-toi, sous-entendu. Enfin, c'est implicite. Et c'est le seul, oui, qui lui offre un peu, l'image de quelqu'un de libre, de quelqu'un qui n'est pas enfermé ni par la famille ni par le travail et qui va suivre son chemin.
C'est quelqu'un qui entrouvre un peu la porte pour lui faire voir la lumière de l'extérieur. Oui. Et alors, effectivement, Jean-Christophe est dans cette atmosphère familiale particulière auquel vient se surajouter le déclin de l'industrie qui va, j'allais dire, en remettre une couche dans cette ambiance. Vous décrivez très bien cette fin d'un monde. Vous écrivez « Un monde s'écrouler, celui de la religion, du patronat familial, de l'entre-soi, au repère clair, il ne reviendrait plus. » Donc, on assiste non seulement un petit peu à la perdition ou au flottement de Jean-Christophe, mais surtout à voir ses parents qui, eux-mêmes, perdent tous leurs repères. C'est ce cumul que vous avez mis en scène.
Et effectivement, particulièrement avec la religion, je dis un mot là-dessus parce que j'ai découvert, donc je ne le savais pas, en particulier en lisant des ouvrages d'historiens et une thèse sur Mazamé, que depuis le XVIIIe siècle, il y a un clivage religieux tout à fait étonnant dans la ville, puisque globalement, il y a des exceptions, globalement, les patrons sont protestants et les ouvriers sont catholiques. Alors là, ça c'est le romanesque, j'ai mis dans une famille protestante, c'est la famille d'amis, la mère les traite de parpaillots parce qu'ils sont protestants alors qu'ils sont ouvriers. Voilà. Et ça, ce n'était pas fréquent. Et j'en ai parlé donc avec des gens qui ont vécu ça et qui me disent oui, c'était tout à fait ça. Pareil pour l'école, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, école publique, école privée. C'était tout à fait ça. Et pareil au niveau politique, ça suit aussi le mouvement religieux, c'est-à-dire que les ouvriers ont été de droite, même lorsque Mitterrand a été élu globalement dans la France en 81, et les patrons ont été plutôt socialistes et plutôt de gauche. Il y a un renversement des schémas historiques habituels.
Et le maintien de clivages et des cloisonnements, et vous le précisez dans votre livre, où ce cloisonnement, ce clivage se propage même jusqu'au niveau des cafés ou des bistrots,
oui.
puisqu'ils ne fréquentent pas les mêmes établissements.
Oui. Oui, c'est
alors revenons à Jean-Christophe, à son territoire globalement. Jean-Christophe, c'est d'abord quelqu'un qui piétine au milieu de l'exclusion. Alors il est exclu un peu de tout, puisqu'il est exclu du certificat, il est exclu de l'armée, il est exclu des copains qui se marient et lui... Il reste célibataire et là, vous lui faites dire, enfin vous décrivez, le décrivez en disant il ne pourra jamais regarder son père d'homme à homme. C'est-à-dire que à un moment donné, Jean-Christophe, il est dans une situation où il est complètement figé, où il n'y a pas de perspective.
Oui, c'est tous les échecs que vous avez effectivement cités dans tous ces domaines-là. Et il y a quelques échappées. Donc, on a parlé précédemment de cette jeune femme qui s'appelle Asfatou. C'est une relation clandestine. Il n'en parle pas aux parents. Il va la voir. Et jusqu'au jour où il décide qu'il va affronter ses parents pour leur dire qu'il veut l'épouser. Et c'est une situation étonnante parce qu'il est ferme dans sa parole, dans sa décision lors de l'annonce. Il se heurte à des parents qui sont violemment racistes dans leurs propos et qui ne veulent absolument pas de cette femme qui est noire comme éventuelle belle-fille. Déjà, aucune femme n'avait grâce aux yeux de la mère. Il en avait quelquefois présenté, mais aucune n'était bonne pour épouser le fils. Et donc, il y a cette échappée d'Asfatou, parce que pendant un temps, dans cette relation clandestine, avant que ses parents le rejettent et donc la rejettent, il a eu un moment, des moments doux et des moments où il s'est trouvé être un homme. Alors, je peux lire un passage
si... Tout à fait, allez-y. Hein, c'est effectivement, il a reçu des signes d'un autre possible et il a vécu un autre possible de manière éphémère. Et c'est à ce titre-là qu'il a rencontré donc cette femme. Et donc, je vous laisse lire l'extrait.
La femme noire en a fait un homme. Les enfants en ont fait un père. Elle a 3 enfants, effectivement. Ils n'ont posé aucune question. Il est d'emblée leur ami, puisque leur maman l'aime. Asfatou a dit « C'est Jean ». Elle ne l'a jamais appelé Jean-Christophe, c'est trop compliqué. Il lui en sait gré. Elle a deviné le poids de ce prénom à rallonge. « C'est Jean, c'est mon homme ». De cela aussi, il lui est reconnaissant. Les enfants l'ont investi de rôles imprévus. Les 2 plus grands montrent leur cahier d'écolier, demandent de faire l'exercice de lecture avec lui, les premières additions. « Ouf !» rit Asfatou, « on a un maître d'école à domicile. » Un comble, si elle savait. Il éclate de rire, du même rire débridé qu'elle, et les enfants en rajoutent, c'est à qui rira le plus fort. Jean-Christophe tend ses bras ouverts au plus petit qui commence à marcher, le fait virevolter dans les airs en poussant des cris de joie. Le petit se blottit, il lui tient chaud au ventre. Il a toujours aimé les bébés en visite à la maison. Les mères hésitaient à confier à ses bras leur fragile progéniture. Asatou n'a aucune inquiétude. Les enfants aiment changer de bras et d'odeur. Le soir, il quitte la bulle de tendresse, embrasse les têtes noires et les lèvres au goût de cannelle de la femme aimante. Il enfouit au fond de lui le bonheur d'avoir donné et reçu. Pardon, je vais rajouter une phrase
oui,
petite
oui,
parce
allez-y,
que
je vous en prie.
On voit le clivage. Puis, au fil des rues, il revêt l'habit terne du fils, aussi gris que les façades des maisons décrépites qu'il rase.
Alors, merci pour cette belle lecture dont ce, qui montre bien qu'effectivement, malgré tout, Jean-Christophe a réussi à vivre des moments qui ont été des moments bienfaiteurs pour lui, mais qui sont restés néanmoins des moments éphémères. Dans le domaine de la prise de conscience et de ce qu'on pourrait qualifier l'éveil au monde, il a eu une réflexion puisque à un moment vous dites qu'il s'est converti au protestantisme, preuve qu'il a eu effectivement du recul par rapport à lui-même, par rapport à sa situation et surtout par rapport à sa famille qui elle est catholique.
Oui, c'est une tentative d'émancipation, surtout par rapport à sa mère qui est très bigote, on pourrait dire, et très vouée à la Vierge Marie. Ça aussi, c'est tout un thème, la Vierge Marie, et qui n'est pas sans incidence sur la mère et sur le fils. Et il c'est une rébellion, cette conversion. D'abord, il se sent bien accueilli dans cette religion. C'est la religion aussi de son amie Jeanne, son ami d'enfance qui va à l'école laïque et c'est surtout une rupture avec sa famille et c'est très courageux parce que la mère le surveille, elle surveille ses lectures de la Bible, elle est là, elle comprend pas pourquoi son fils a changé de religion, c'est vraiment, elle le traite d'apostat, c'est insupportable pour elle.
Et donc c'est une atmosphère très très lourde pour laquelle, vis-à-vis de laquelle on semble que le cheminement de Jean-Christophe paraît plutôt l'horizon paraît plutôt obscur. Et la suite du roman est un roman qui va expliquer l'aboutissement de son cheminement finalement, qui va passer par un cadeau qu'il va recevoir. Cadeau venu du fond du bonheur et de déchirure et un véritable hymne à la vie que nous allons écouter dès maintenant.
Gracias a la vie que me ha dado tanto, me dio dos luceros. Que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. La
a la vida que
tan tierna de mi bien amado. La 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 la.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Gracias a la vida, merci à la vie. Marie-Hélène Nunez, cet hymne à la vie s'imposait pour parler de ce roman.
Oui, oui, parce que effectivement, dans ce que nous avons dit, mais évidemment à la lecture, c'est encore beaucoup plus prégnant. C'est un livre qui dit beaucoup du déclin, qui dit beaucoup de la souffrance, de la douleur d'un petit être écrasé, de l'emprisonnement, etc., des doutes, de l'enfermement. Et puis, il y a cette ouverture vers la fin du livre, qu'on ne vous révélera pas entièrement, évidemment, mais qui est cette foi en la vie, qui est dans les paroles là en espagnol, il y a « Merci à la vie qui m'a tant donné, elle m'a donné le rire et m'a donné les pleurs, ainsi je distingue le bonheur de la douleur, les deux matériaux qui composent mon chant. » Et je termine mon livre par un passage qui suit ce chant, où on voit qu'effectivement la vie de Jean-Christophe débouche vers une forme de lumière qui est... en fait, je ne sais pas comment dire, l'imbrication de toutes ces choses qui paraissent opposées, mais qui font quand même la vie, c'est-à-dire la douleur, la souffrance et la lumière. Et on voit la lumière qui arrive à la fin.
Donc ce roman, on peut le qualifier d'un véritable élan vers la vie, comme vous venez de le dire. Je recommande donc aux éditeurs la lecture de ce roman très très fort. Je rappelle le titre « Territoire étanche » paru chez Hasard Atelier Édition de Marie-Hélène Nunez. Merci à tous pour votre fidélité. Marie-Hélène Nunez, merci beaucoup d'être venue à Parole d'auteur.
Merci de m'avoir invité et si finement lu et de m'avoir posé des questions qui m'ont vraiment poussé au bout de certaines réflexions.
Et merci à Yannick à la technique. Au revoir à tous et bonne lecture.